Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous.
Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien. La saison progresse déjà. Vous avez déjà eu quelques invités de tout genre. On a discuté déjà de plusieurs sujets. Et mon invité de cette semaine, on s'interrogeait un petit peu. C'est-tu 2011, c'est-tu 2012? Bon, c'est dans ces années-là. Et c'est probablement en 2013 qu'on a commencé à se parler de façon plus régulière. Mais reste que ça fait déjà quelques années et on se rend compte que le temps passe. Mon invité est encore jeune, il est en bas de la trentaine encore. Mais reste que quand on s'est parlé, c'était plus début vingtaine.
C'est vrai que ça commence à dater quand tu penses demain.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Mathieu Rochette, mon invité d'aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour Mathieu.
Bonjour Martin.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va super bien. Merci d'abord d'avoir accepté de faire l'entrevue. C'est pas tout le monde qui accepte, mais bon, tu fais partie de ceux qui l'ont fait et c'est très apprécié. Et bon, Mathieu, tu es apparu dans ma vie, mais tu t'intéresses à plein de choses, tu t'impliques dans plein d'affaires aussi, et c'est de ça que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui. Mais en commençant, comme je le fais avec chacun de mes invités, j'aimerais ça que tu nous parles un peu du début de ta vie, de ta naissance, à quel endroit tu es né. J'ai peut-être un peu brûlé le punch là, en disant que tu étais en bas de la trentaine, mais si tu veux nous en dire plus, tu nous en diras plus. Tout d'abord, tu es né où, toi, Mathieu?
Ben, je suis né à Sainte-Justine, à Montréal. À l'époque, mes parents habitaient dans le coin de c'était un petit village dans les montagnes, qui est juste parce que je le cherche, ça vient pas, évidemment, juste pour faire exprès. Mais bon, bref, on est resté là quelques années, j'ai pas vraiment de souvenirs, puis on est revenu vivre à Montréal par la suite, à Sainte-Mélanie, et voilà.
OK, à Sainte-Mélanie, d'accord. Donc, vous êtes venu vivre quand même assez tôt à Montréal.
Ouais.
Est-ce que c'était en lien... Est-ce que toi, ton handicap, Mathieu, ça vient de où?
Ben moi, c'est une naissance. C'est ma maman, Jocelyne Richard, qui est déjà venue à ton micro, d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même une couple de temps.
Oui, la présidente de la SAM. Oui,
exactement ça. Elle est encore aujourd'hui.
Émission 17.
Tu te dis ça?
Oui, là, on est dans les 60-quelques. Ça fait déjà un bout.
On a la même pathologie visuelle. Puis, bon, c'est ça. Donc, à la naissance, je suis né où j'avais pas de vision du tout. J'ai une petite expérience par un homéopathe à l'époque qui m'a donné plus ou moins 25% de vision.
Okay.
Puis je l'ai reperdu progressivement en vieillissant, là, quelque part à l'adolescence, là, qu'on me suis rendu compte que ça avait quand même beaucoup, beaucoup diminué. Là. Je pense dans le coin de 11, 12 ans, puis progressivement. Je vois encore un peu, mais c'est très fait. Je vois la lumière, certains contrastes, mais c'est tout.
Ça t'amène pas grand-chose, là. Tu peux pas...
Non, puis maintenant, il y a une couple d'années, je m'en servais encore des fois pour localiser quand il y avait des portes ou des fenêtres ou des lumières au plafond. C'était quand même utile, les reflets. L'hiver, je m'en servais surtout pour c'était plus évident quand les trottoirs étaient déneigés, puis le relief avec la neige, mais non, plus maintenant. Ce qui est arrivé, c'est une espèce de tache centrale qui est apparue, fait qu'il faut que je vois juste des angles, ses côtés, il faut que je me pète le cou, les yeux, pour voir à peu près, de toute manière, rien. Fait que...
Pour éviter, finalement, de peut-être même pas te...
Exact, c'est ça, c'est plus utile. c'est bon, je suis capable de voir s'il fait clair ou pas, mais c'est à peu près tout.
OK, d'accord. Donc, est-ce que c'est un petit peu en lien avec ton handicap ou celui de ta mère ou les deux que vous avez décidé de venir vivre à Montréal ou si ça n'avait pas de lien?
C'est juste une bonne question. Je pense que il y a un lien, mais pas tant que ça. En tout cas, c'est certainement pas pour moi qui sont déménagés à Montréal à l'époque. Je pense que c'est surtout pour ma mère que c'était plus ou moins agréable de vivre. Parce que c'était en campagne, là, c'était vraiment dans la montagne. Fait que pour elle, je pense que c'était surtout une question d'accessibilité pour elle. Puis comme ma mère était travailleuse sociale de formation, je pense que aussi une question de transport, c'était compliqué tous les jours.
Ouais, les commodités, là.
C'est ça.
OK.
Fait que je pense que c'est surtout plus ça que le fait qu'ils ont eu un enfant puis que l'enfant était aveugle. Je pense que c'était plus un choix de couple à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que c'était pas... T'as pas ce qu'il y avait de mieux.
OK. Mais ton père, lui, il avait pas de problème de vision?
Non.
OK.
Non.
D'accord.
Non, mon père, à l'époque, était camionneur, je me rappelle bien. Il avait une cogne. Non, il était pas camionneur. Il était... il avait une compagnie de préposés aux bénéficiaires pour les SLSC, les hôpitaux.
OK.
Ouais.
OK, d'accord. Dans, un petit peu dans le même domaine que ta mère,
c'était... Oui, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, okay, dans le fond,
OK,
je pense.
D'accord.
Si je me rappelle bien dans les discussions qu'on a déjà eues à l'époque, je pense que c'est ça, ils se sont rencontrés parce que ma mère était travailleuse sociale, elle a eu un dossier, puis mon père était là avec un de ses clients, ou je sais pas, mais je sais que ça a un lien. Ça a un lien, quelque chose du genre.
Voilà. OK.
Ouais.
Et toi, Mathieu, ton enfance, là, bon... Et j'imagine qu'à un moment donné, tu t'es aperçu que tu n'avais pas une vision parfaite.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens un peu de ça?
Ouais, je me rappelle de ça quand même parce que ce qui est le 25% que je me rappelle d'avoir eu était quand même un 25% clair. Tu sais, j'avais pas d'angle mort, j'avais pas de j'avais mes yeux réagissaient au même titre qu'un voyant 100%, qu'une vision de 100%, la diverse luminosité, ces choses-là. Donc, dans le fond, je voyais juste moins loin, moins précis, mais okay, tout était clair. Mais je me rappelle que...
C'était des deux yeux, ça?
Ouais, c'était des deux yeux.
OK.
Ouais, bah, peut-être que le gauche était peut-être sensiblement, peut-être 1 ou 2% plus bas, je m'en rappelle pas, mais...
OK, mais tu avais quand même tu savais c'était quoi... voir des deux yeux.
Oui, oui, absolument. Okay. Ouais.
D'accord.
Ouais, ben, je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais au soccer, j'étais capable de jouer au hockey. Je voyais pas la rondelle à plus de 3-4 mètres, mais à l'intérieur d'un gap de 3-4 mètres, j'étais capable de voir. Je voyais le goaler à l'autre bout. Je pouvais voir les écriteaux, les pancartes sur les rues, les menus, ces choses-là. Je voyais qu'il y avait de l'écriture, j'étais pas capable de lire, mais je voyais l'écriture.
OK, mais là, quand tu dis que tu jouais au hockey, puis tout ça, c'était dans des équipes, tu veux dire, tu jouais avec tes amis?
Mes amis, ouais, c'est ça, mes amis, à l'école, au primaire.
OK.
Ou ce qu'on jouait dans le cours, soit au COSOM, ou des fois, je les... petit, j'ai fait longtemps du patin artistique.
Oh!
c'est drôle parce que t'es pas téléspectateur, mais t'es... les personnes qui ont écouté l'entrevue, ils me verraient lâcher et ils trouveraient ça plutôt ironique.
Puis c'est que t'as ri même en le disant, oui, ça fait que...
Ça fait pas de sens, mais... Ouais, c'est ça, j'ai fait longtemps... quand j'étais jeune, je faisais du patin artistique, j'ai fait de la natation, puis j'ai fait...
Ouais, ben attends.
Ouais, c'est ça.
Tu t'en sortiras pas comme ça, là. Comment c'est venu l'idée de faire du patin artistique, là? J'ai rien contre ceux qui en font, là, mais je veux quand même savoir comment ça t'est venu.
Franchement, là, je le sais pas. Parce que ça fait tellement longtemps, j'ai commencé ça vraiment jeune. Je peux même pas dire, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, aucune idée. Tout ce que je me rappelle dans les vieux souvenirs, c'est qu'à un moment donné, je voulais apprendre à patiner comme à peu près tous les jeunes. C'est-tu moi qui voulais ou c'est mes parents qui voulaient que j'apprenne? À un moment donné, on s'y perd, mais... Je me rappelle que j'avais été sur une patinoire, puis j'étais là avec mes deux gros cônes oranges, me tenais à peu près pas debout. Puis là, t'avais les autres qui faisaient du patin de vitesse. Puis là, mon père, il a dit « Oh, boy, je pense qu'on t'a pas inscrit à la bonne place pour apprendre à patiner. » Tu sais, les autres, ils font des stop and go.
Ils vont déjà très vite, là.
C'est ça, les autres, okay, sont pendant qu'ils font des stop and go. Moi, je suis là, stop avec mes deux cônes, puis go sur le derrière, sa patinoire, là, ça s'arrêtait là. Puis je pense que c'est par la suite où ce que juste... décidé de me faire des cours de groupe à l'époque où c'était des petits groupes d'apprentis pour justement apprendre à patiner tout ça. J'y allais avec une de mes amies d'enfance, Julianne, Colin, ça rappelle des souvenirs. Puis je pense que c'est par la suite, dans le cadre du cours, il y avait un professeur là que je pense son nom c'est Julie, mais je suis pas sûr. Qui avait parlé à mon père en disant ou probablement à ma maman aussi à ce moment-là, que j'avais, qui semblait avoir un certain potentiel, faut croire. Puis elle est devenue, par la suite, j'ai resté dans les cours de pour apprendre à patiner que ça finit par rentrer dans des groupes de patinage artistique et de chorégraphie. Puis, j'ai fait ça un bon bout de temps. Elle est devenue mon professeur privé, où j'avais des cours de groupe, mais surtout des cours individuels avec elle, puisqu'on a fait des montages pour les championnats de Montréal, puis des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai même gagné la médaille d'or.
OK.
Puis ce qui est plus drôle, c'est que quand je suis monté sur le podium, puis c'est là que tout le monde a compris que tout le monde s'est fait battre par un handicapé visuel. Et ça, ça avait fait...
Ça avait fait jaser. Hein?
Je pense que oui. J'ai pas de gros souvenirs parce que je devais peut-être avoir 8, 9 ans, 10 ans maximum. Mais ouais, ça avait fait quand même jaser. Puis c'était un beau moment. Je me rappelle encore, pareil, écoute, on avait le spectacle sur des cassettes. Là, que je ne dois plus avoir ça quelque part. Mais je me rappelle, c'était cool. C'était vraiment le fun. Mais ouais, non, j'ai déjà été capable de sauter dans les airs en patin en faisant des step-it, Martin.
Ce qui est drôle, Mathieu, là, c'est que tu m'avais jamais dit ça avant aujourd'hui. Puis tu le dis au micro.
Hein, ouais, je écoute.
T'es conscient quand même que là, il y a quelques personnes qui vont entendre ça. Là.
Ouais, mais non, mais ça me dérange pas. Au contraire, je trouvais ça... Écoutez, c'était quand même le... Puis ça... Quand j'étais jeune, mes parents m'ont fait toucher à énormément de choses. Ma mère m'a apporté le goût de la lecture. Elle me lisait des histoires. Elle m'a apporté un... Tu sais, mon père, il m'a beaucoup traîné dans les arénas. Puis j'ai fait de la natation que... Tu sais, mes parents m'ont inscrit à beaucoup de choses. Les scouts, les...
Ah oui, t'as fait des scouts
longtemps,
aussi?
Longtemps, oui. Okay. J'ai arrêté ça. Je suis plutôt avant le secondaire. Mais ils m'ont inscrit à énormément d'activités. Mais ce qui est quand même, je veux dire, la natation, le patin artistique, ce qui fait que même si je suis un gros gaillard, plus tard, quand j'ai fait le goalball, j'imagine on va en reparler plus tard.
Oui.
Mais veux pas, il y a un bagage génétique qui a été fait qui fait que malgré ma grosse stature, ben il y a une flexibilité de bas du corps qui a toujours été là à cause de tout ça. Fait que c'est... D'un côté, tant mieux, c'est comme j'ai fait du basic, tu sais, je veux dire, j'ai toujours, dès que j'étais ticu, mes parents m'ont mis dans plein d'activités, puis à un moment donné, j'ai fait le choix, mais tant mieux, parce que ça fait partie du bagage, puis c'était le fun. Honnêtement, dans mes souvenirs de patin artistique, j'ai eu énormément de plaisir, surtout quand je me rappelle le spectacle ou la compétition, puis c'est quelque chose d'être sur une glace, plein de monde dans les estrades, puis
c'est un spectacle, là. C'est les mouvements. C'est la grâce, là, j'imagine. Je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais c'est le faut quand même être à l'aise de bouger. Puis de...
Exact. Puis il y avait quand même un mouvement. C'était quand même beau parce que tous les mouvements s'enchaînent avec la chorégraphie. T'sais, c'est quand même une danse, finalement, avec des patins. T'sais, si on veut voir ça comme ça, ça reste un peu une danse. Tu montes des figures. Puis il y a quand même beaucoup de un gros concours d'agilité, d'habileté, de synchronisme. C'est quand même, ça apporte beaucoup de choses. Dans mes souvenirs, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est plate, j'ai arrêté parce que finalement, j'ai arrêté. C'était aussi bête que mes pieds, de la manière qui était faite, j'avais tout le temps des ampoules effroyables dans les patins. Mes parents ont dépensé des centaines et des centaines de dollars pour tenter de trouver des patins adéquats, mais je n'étais plus capable. J'avais tellement mal aux pieds que j'en braillais. Ça faisait des grosses ampoules. C'était horrible. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, bon, tenez, perdu l'intérêt à cause de ça. Mais c'est dommage parce que c'était bien le fun. D'un côté, entre vous et moi, d'un côté, c'est peut-être mieux parce que par la suite, j'ai perdu la vision. Fait que probablement que j'aurais pas été capable de continuer ou s'arrêter. Quoi que ça aurait pu être pété, hein, de pouvoir continuer en disant tu fais maintenant de la danse synchronisée à deux, c'est une patinoire aveugle et voyant. Ça aurait pu être.
Ben, on aurait peut-être pu voir le côté de ta partenaire, là, le côté guide, là, accompagnateur. Ouais,
c'est vrai que ça répète quand même quelque chose, mais en tout cas, mais bref, c'est pas arrivé, dans tous les cas.
Mais on voit quand même que le sport est arrivé très vite dans ta vie parce que, bon, tu parles de ta carrure, t'as une carrure sportive, là,
Ouais, là, plus à une carrure à retraite, mais non, on peut pas digner quand même. J'ai quand même une certaine. Je prends de la place dans un cadrage de porte. Ouais. Pas nier ça.
Mais t'as la voix aussi qui va avec, hein? T'as une voix quand même assez. On peut dire mâle, hein? Une voix.
Ouais. Ben, service à public. Puis je présume, ben, ça fait 10 ans que je fais le bon duploi. Plus que 10 ans, je travaille avec le public. Puis, bon, on a la voix qu'on a. Hein.
Ça, c'est sûr. Effectivement.
Je n'ai pas de mérite. Ça. C'est comme ça.
Mais restons un peu là.
Ouais, à l'enfance.
À l'enfance. Ben, en tout cas, ça donne une idée vers où on s'en va, vers quoi on s'en va. Mais à l'école, Mathieu, comment ça allait? Qu'est-ce que tu as comme souvenir de l'école primaire, secondaire? C'était quoi tu disais, bon, ta mère, elle t'a initié à la lecture, puis ça, je sais que tu lis encore aujourd'hui.
Ouais.
C'était quoi pour toi l'école?
Pour moi, c'est un gros fardeau, l'école. Ça, j'ai toujours détesté l'école. J'ai toujours plus vu comme une corvée que d'autres choses. Puis je pense que la seule raison que j'aimais l'école, c'est à cause que ça a été la récréation. ouais, j'ai jamais été un gros fan d'école. J'ai toujours détesté ça. Mais je peux pas dire que j'ai pas été choyé au niveau des adaptations. J'ai eu des. Quand j'ai commencé au primaire, j'étais au privé. Puis je sais qu'ils ont fait, l'école a fait énormément d'efforts pour m'accommoder, parce qu'évidemment, le système privé, ils ne pouvaient pas avoir les professeurs itinérants. Je pense à ça, ça s'appelle d'une autre manière, là, mais en tout cas, dans le temps, on appelait ça des professeurs itinérants.
Oui. Je sais pas comment ça... Il y en a-tu encore ici?
Ouais, en masse, mais en tout cas, ils portent une autre appellation maintenant.
Ouais.
Anyway, bref.
Je vais rechercher ça parce que je trouve que je fais dur de ne pas savoir ça.
Ouais. Mais toi, je pense que ça fait 3-4 ans qu'ils ont
commencé
à entendre ce terme-là.
Changé, là.
Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais qu'ils ont fait bien des efforts, mais après ça, j'ai été transféré à une autre de mon école de quartier. J'ai toujours eu de l'aide. J'ai pas été. Même au secondaire. Moi, personnellement, je peux pas dire que j'ai eu. De la difficulté à cause de l'handicap visuel au niveau de l'accessibilité, j'ai quand même été quand même bien choyé. Mais il faut dire aussi quand même, quand tu vois 25%, ça peut donner une idée. J'étais capable, je lisais avec une télévisionneuse, mais j'étais capable de me péter les yeux pour lire de la police 14 sans télévisionneuse, sans adaptation.
Fait, OK, quand même.
Ouais, c'est ça. T'sais, fait, j'ai pas tant souffert de ça jeune parce que je voyais quand même, t'sais, je voyais quand même assez bien pour passer inaperçu. Puis, t'sais, j'ai fait toutes les cours, j'ai pas eu de crédit, j'ai pas eu d'abstention de quoi que ce soit. Puis, en plus, fin de primaire, j'ai été à Saint-Enfant-Jésus, qui était l'école.
Ah oui, qu'il y avait des. Y avait...
Le bureau là, de l'île de Montréal. Mm-hmm. En tout cas, je pense qu'il y a deux commissions scolaires à Montréal, une des deux.
Puis il y avait du handicapé visuel, là, il y avait du handicapé de d'autres physiques, je crois aussi.
Ouais, auditif, si je me rappelle bien.
Mm-hmm. OK.
Fait que tu sais, j'ai pas été. C'est ça, j'ai été chanceux, puis au secondaire, je sais que c'est là quand j'ai commencé à perdre plus la vision. Là, ça a été plus compliqué, le secondaire. Là, t'es différent. Pas la même. Puis vraiment, là, pour vous donner un exemple, pendant d'un été, j'étais capable de lire les billets, les chiffres sur les billets de monnaie, puis à la fin de l'été, j'étais plus capable.
OK. Ça s'est fait.
Ça a droppé sec.
Assez vite.
Ouais.
Puis pendant l'été, ben, j'allais dire en plus, mais d'un sens. Ça serait arrivé pendant l'année scolaire, ça aurait été tout aussi.
Ça aurait été la même package deal, mais ça. Juste pour dire, là, ça a vraiment droppé, ça a diminué là, énormément rapidement. Donc là, perte de vision, la rentrée dans l'école secondaire, puis, tu sais, quand t'es au sixième année primaire, t'es le roi de l'école, mais là, quand tu tombes secondaire...
Là, tu retombes le petit bébé, là.
Ouais. Puis là, c'était pas évident. Là, je sais que j'ai eu bien de la misère. Mes parents ont énormément... se sont beaucoup, beaucoup ostinés, battus pour l'adaptation. Les professeurs étaient géniaux, mais c'était surtout l'administration qui était
qui voulait moins.
Ouais, ordinaire. Du moins, cette directrice-là. Par la suite, quand c'était un autre, ça a bien été.
C'est ça, ça peut être une question, des fois, d'une personne.
Ouais, donc, ouais.
C'est plate à dire, mais c'est ça.
C'est ça. Mm. Mais les profs étaient corrects. Tu sais, je me suis fait des amis, quand même une facilité, quand même.
Ouais, ben c'est bien que tu en parles. Ouais, c'était quand même pas trop compliqué de. Parce que vu que l'école, c'était pas trop ta tasse de thé non plus, les amis, ça devait être important.
Ouais, ben c'est ça. Il faut bien trouver faut trouver intérêt là, dans quelque chose qu'on n'aime pas. Fait que non, ben puis j'ai toujours été social. Fait que je me suis fait des amis assez rapidement. Là-dessus, ça a bien été. Il y a une chose, parenthèse, au moins il y a une seule chose, j'ai toujours détesté l'école, puis ça a toujours fait suer mes professeurs. Parce qu'en plus de ne pas aimer l'école, je prêtais pas trop attention, mais j'étais là, je prenais pas de notes, je réussissais à avoir tout le temps une note de passage pareil. Fait que ça a toujours fait suer ben gros les professeurs, parce que les profs, surtout en vieillissant, quand j'ai fini mon cursus régulier,
Autrement dit, les professeurs ne s'attendaient pas que tu passes avec l'effort que tu mettais?
Non, c'est ça. OK. Puis ils s'attendaient, surtout que les... on va y revenir après, je finirai la parenthèse plus tard, mais... Non, c'est ça, tout ça pour dire qu'au secondaire, quand j'ai perdu ma vision, les deux, trois premières années de secondaire, là, je l'ai trouvé plus dur. Là, ça a été plus difficile.
Okay.
Les profs étaient géniaux. Pour la grande majorité, j'ai toujours eu des bonnes relations avec mes professeurs. Mais ça a été là, ça a été difficile après, parce que quand j'ai perdu trop de vision, là, j'ai été à Jean Coilette.
C'était ma prochaine question. Dans ma tête, tu y avais été à Jean Coilette. OK, tu y es allé. Okay.
Dans le coin du secondaire 3. Ça a été une année d'enfer. Une année d'enfer, là, l'âge de mes 14 ans. Là, mon père est mort. Perte de vision, je dirais, là, le plus qui me restait, là, j'ai dû perdre 7, 8, 10% quasiment en dedans de... moins de 6 mois, changement d'école.
14 ans, c'est pas l'âge la plus facile non plus. Tu sais, c'est l'adolescence, là, pur et simple.
Pur, super dur, ouais. Fait que, ouais, non, là, cette année-là, 2004, a été. Je m'en serais passé. Mais c'est comme ça, puis c'est là que j'ai été à Jean Coilette, puis ça n'a pas été facile. Et bon, attends. Excusez-là, mais ouf. La perte de vision, l'acceptation en pleine adolescence, révolté, fâché, insulté. C'était pas une belle période.
T'en voulais un peu à la vie, on peut dire ça comme ça?
Ouais, carrément. Ouais, j'étais enragé. Complètement enragé. Mais bon, ça a fini par se...
C'est ça, ça a duré un temps, puis après, ça...
Passe à autre chose.
Les nuages se sont un peu dispersés, j'imagine.
Oui.
Mm-hmm.
Puis, quand même, ce qui est la chose la plus comique à Jean Coilette, autant au début, quand j'étais arrivé là, j'avais tout ce que je voulais, c'était partir. Puis, la dernière année de secondaire, ils voulaient que je retourne au régulier, puis ma maman, puis moi, on a lutté de toutes nos forces pour que je puisse finir mon secondaire là-bas. Je trouvais ça tellement impertinent de retourner dans le milieu régulier pour une année. Puis finalement, j'étais bien, Jean Coilette. Finalement, overall, je peux le dire, à la fin, ça m'a permis de finir mon secondaire. Puis surtout, ça m'a permis aussi de faire mes matières fortes avec une bonne adaptation, avec du monde compétent. Puis comme j'étais pogné entre l'ancienne réforme, puis l'ancien programme, c'est-à-dire puis la réforme, j'ai pu faire quand même mes matières fortes sans être obligé de passer au travers des nouvelles normes.
Ouais.
Fait que ça avait été... La dernière année, elle a été... La première partie de l'année de secondaire 5 avait été rough parce qu'il fallait que je fasse des 4.36 puis des sciences 4.36 en 3-4 mois.
Oh.
Ouais, c'était... L'examen final, il a fallu que je refasse les trois examens de maths, les 4-16, 4-26, 4-36, les trois un à la suite de l'autre dans mes journées.
Oh, wesh!
Quelle horreur! Oui.
Oh, boy!
Ah, oui, c'était
ah, moi, j'ai pas fait ça, les 4-36, hein?
Bon, c'est pas si pire. Honnêtement, c'est pas si pire. Entre le 4-26 puis le 4-36, il n'y a pas une grosse
différence. Le 4-26, moi, j'ai pas connu ça. J'ai fait le 4-16, là. Ça, oui.
Ouais, là, il y a une méchante différence, ouais. Mais c'est du pelletage de nuages. Écoute, c'est juste des théorèmes qu'on apprend de plus. C'est tellement inutile, mais bon. Ça a l'air que c'était bien important pour le cégep. Même si je voulais pas y aller, je me suis dit... J'avais pas l'intention d'aller plus loin que le secondaire 5 dans ma tête, mais je me suis dit aussi bien faire... Comme j'ai dit, je suis un paresseux, je déteste l'école, mais les capacités étaient là. Fait que je me suis dit, je veux les faire parce que si je pourrais décider de changer d'avis plus tard...
Ça sera fait.
Mm-hmm. J'aurai mes matières fortes, donc ça va m'empêcher. J'aurai pas besoin de recommencer ça. Fait que je les ai faites, j'ai passé, puis ça a été... Ça a été chiant. 3-4 mois pour faire 4-36.
Oui, oui, parce que là, on s'entend que c'est ça, là, c'était très rapproché.
Oui, oui. Non, c'était plate.
Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, dans le fond, puis c'est pas parce que je prône là, l'école Jacques Ouellet, c'est que quand même, tu as trouvé ton compte à l'école.
Complètement.
Tu as fini ton secondaire. Tu as fait des matières fortes.
Ouais.
Bon, tu savais que tu n'avais pas envie d'aller au cégep à ce moment-là. Comment c'était perçu, ça, de ne pas vouloir aller au cégep dans ces années-là?
C'est ça. Mes professeurs étaient tous, pour la plupart, plutôt vraiment fâchés que je voulais pas continuer à aller à l'école. Parce que c'est ça qui arrive. Quand je dis que j'avais quand même des... Je disais, tu sais, dans le fond, les notes de passage, j'étais tout le temps en français. J'ai jamais été excellent en écriture puis en français en général. Mais tout ce qui était mathématiques, c'est réel. Là. C'est pas vraiment une fierté, mais sans trop me forcer. Tout ce qui est sciences, mathématiques, j'ai toujours aussi en du 80-85%. L'histoire, la géographie, ça a toujours été des notes en haut de 75%.
La géographie, tu réussissais quand même à,
ah ouais.
à visualiser. Là.
Mais c'est facile, écoute, ça pour ça, mais Jacques Ouellet, pour ça,
oui.
C'est des grosses cartes, ces murs là qui sont toutes en relief, en bois, en grosses... Écoute, c'est...
Ben, je pense que moi, j'aurais aimé ça faire mon secondaire à Jacques Ouellet, ne serait-ce que pour ça.
Écoute, c'est pour ça que je dis sincèrement, puis à l'époque... si on revient à plutôt loin, tu avais tous ceux qui étaient dans l'âge de ma mère, là, où ils vivaient au couvent, puis c'était l'intégration n'existait pas.
C'est ça, là.
Mm-hmm. Et après ça, tu as eu l'intégration, et là, tu as comme une. Tu en as encore comme qui peuvent aller à Jacques Ouellet, mais la majorité.
C'est de plus en plus rare.
C'est de plus en plus rare. Mais honnêtement, là, pour avoir vécu les deux, c'est sûr que. Le fait que j'étais au secondaire régulier, quand même une couple d'années, a fait que j'ai connu des amis que je parle encore d'ailleurs. Et si je compare à Jacques Ouellet, où j'en parle pas. Ça, je peux. Ah non, c'est pas vrai, c'est faux. Au moins, il y en a une. Une de mes amies que je parle encore. Mais les contacts, c'est pas pareil. Parce que quand, tu sais, au secondaire régulier, on est tous des amis de quartier, fait plus ou moins proches. À Jacques Ouellet,
on veut pas, t'es loin, partout. Là.
C'est ça. Fait que. Puis la majorité, quand on va pas se le cacher, moi j'étais fâché, j'étais en cri, j'étais pas le seul. Hein? Fait qu'il y en a quand même quelques-uns là-dedans, je présume que quand ils sont partis, parce qu'il y en a là-dedans qui vont rester un an, deux ans maximum, juste le temps d'aller chercher les outils qu'ils ont besoin pour retourner au régulier, ben après ça, ils veulent. Il y en a beaucoup là-dedans qui veulent rester dans leur école de quartier, ils veulent plus
avoir de liens puis de contacts.
C'est ça.
Uh-huh.
Puis, tu sais, donc, moi, mais au niveau académique, franchement, personnellement, ça m'a sauvé. Parce que quand je suis arrivé à Jacques Ouellet, j'avais quand même beaucoup de lacunes. J'ai eu des cours de qui avaient été crédités auparavant ou ce qui n'avait pas la. Tu sais, faire de la géométrie. T'sais. Quand tu as un professeur qui doit enseigner à 30 élèves, puis là, c'est des cours de géométrie, comment tu fais ça pour enseigner ça à quelqu'un qui voit beau?
Ben, c'est ça, là.
C'est ça, m'en est. Donc, il y a des choses comme ça que j'ai pas fait.
L'enseigner puis le réaliser les tâches qui s'y rattachent.
Mmh. Exact. Fait que, moi, Jacques Ouellet, autant au niveau académique que au niveau de l'ambiance ou ce que c'est. Quand t'es en perte de vision, quand même, j'ai pu faire du sport là-bas, il y avait une piscine, les cours, on a pu faire des cours d'informatique. De l'art plastique. Tu sais, je veux dire, veux pas, ça, c'est génial.
Ben oui, c'est vrai, là, par exemple, parce que l'art plastique, bon, j'en connais qui en ont fait à l'école régulière, ouais. Là, mais bon, à Jacques Ouellet.
Ben, on fait de la sculpture. Ben oui. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, au niveau de ça, moi, je pense que la seule chose que je peux dire, par contre, c'est que l'école, quand t'es un handicap, quand tu vis avec un handicap quelconque, que tu fréquentes le milieu dit régulier, ça te forge un caractère différent que si t'as été un peu dans ta communauté tout ton cursus. Ça, c'est clair que la vision que t'as sur le monde extérieur est clairement pas pareille. Puis je le dis comme ça parce que j'ai pu voir la différence.
Tu l'avais vu avant un peu, ouais. Comment c'était? Quand même.
Oui, puis j'ai vu des gens aussi qui ont gradué, qui ont juste fréquenté Jacques Ouellet, puis que du jour au lendemain, ont fait leur primaire là-bas, leur secondaire là-bas. Ça arrive au cégep.
C'est une marge, là.
Oh, c'est énorme. Et là, j'en ai vu beaucoup, comme j'en ai vu beaucoup, c'est faux, là, mais quand même quelques-uns, tu sais.
Assez pour te faire quand même une idée, puis une comparaison, là.
Ouais. Mm-hmm. Mais par contre, Jacques Ouellet, il donne des outils qui fait qu'au moins académiquement, t'es pas en arrière. Pour même dire, sur certains aspects, tu peux même quasiment être un peu en avant, parce qu'il reste quand même des cours de... T'as un professeur avec 3-4 élèves, 5 élèves maximum, tu sais. Puis personnellement... Puis j'en connais aussi d'autres qui ont eu la même chance que moi. On n'aurait pas pu faire des mathématiques ou des sciences fortes au régulier. Ça, c'est sûr que non. Là, je parle surtout les aveugles complets, quand c'est en braille et tout ça.
Ben moi, en tout cas...
Ça n'aurait pas marché.
Moi, je peux te dire que, bon, j'ai encore un peu de vision, mais tu sais, je faisais tout à la télévisionneuse, là.
Ouais.
Puis bon, le prof, des fois, j'y allais le midi, là, puis elle m'expliquait, là, bon, c'était quoi les translations, puis les rotations, puis...
Ouais.
Elle m'en faisait faire un ou deux, là, mais là, elle disait, bon, tu sais, s'il y a un examen, s'il y a une question dans l'examen du ministère là-dessus, là, tu sais, en voulant dire, on n'insistera pas trop, là.
Ouais, ouais.
Mais, tu sais, je parlais des maths 4-16 tantôt, mais faire les 4-36, moi, je trouvais ça inconcevable.
Au régulier. Ouais, puis en plus, c'est du n'importe quoi, en tout cas. Mais, non, mais c'est du n'importe quoi. Écoute, faut que tu apprennes des calculs qui font aucun sens à moins que tu décides d'un jour devenir architecte. Tu sais.
De t'en aller dans quelque chose qui t'a vraiment, tu vas vraiment avoir besoin de ça.
Exact. Sinon, c'est une inutilité. Monumental.
Puis on s'entend aussi que, j'imagine, bon, ceux qui avaient les notes pour pouvaient le faire de façon systématique, mais sinon, c'est ceux qui pensaient s'en aller dans quelque chose pour lesquels ça allait être utile, là, au cégep, exemple.
Ouais, c'était pour décider que tu voulais rentrer dans des domaines comme sciences pures, des choses comme ça, et que les faux, tes maths, tes sciences pas. Uh-huh. C'est pas une obligation, c'est tu l'as pas, tu rentres pas.
C'est ça.
Fait que c'est pas une obligation, c'est-à-dire c'est pas une suggestion, c'est une obligation.
C'est ça, exact.
Mais non, c'est ça, fait que... puis bon, bah, par la... Non, c'est ça, fait que tantôt, tu avais posé la question comment les profs ont réagi. Ils étaient plutôt tous déçus. Je sais que ma mère a bien aimé ça, que je continue, que j'aille faire des études, mais en même temps, ça a été un peu l'argument quand on a décidé, quand elle s'est battue pour que je reste là, elle a dit, permettez-lui donc de finir son secondaire 5 comme du monde, puis après ça, on verra. Mais au moins, donnez-lui cette chance-là de finir son cursus régulier avec les meilleures chances au monde, puis il fera ce qu'il voudra après, de toute façon, il va être majeur. Fait que...
Mais là, c'est bien que tu me ramènes un peu à la question de départ, parce que, dans le fond, là, moi, ce que je veux savoir, puis ce qu'on veut probablement tous savoir, c'est que là, tu savais que tu ne voulais pas aller au cégep,
ouais.
Mais qu'est-ce que tu voulais faire?
Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2007, quand j'étais encore secondaire, je voulais avoir un emploi d'été, que j'ai fini par trouver comme serveur en Haut-Noir.
OK, déjà à ce moment-là.
Ouais,
OK.
Ouais. Puis, parce qu'il y avait ouvert, si je me trompe pas, dans le coin de septembre ou
octobre 2007. Là.
Non,
mm-hmm.
C'est ça.
Mm-hmm.
Fait que, en même temps, puis ça c'est drôle, hein, ça, écoute, plus j'en parle, ça, je jouais au hockey avec Hibou une fois de temps en temps, puis je n'ai pas joué longtemps. Puis il y avait un gars qui s'appelait Raymond qui travaillait là comme serveur, puis il m'a dit, ben appelle Mo, il cherche du monde. J'ai appelé Mo. J'ai fait l'entrevue, puis j'ai commencé à travailler pendant l'été. Puis finalement, ben, j'ai continué à travailler même en étant au secondaire, qui fait que c'est une des raisons pourquoi que en étant déjà pas très gros fan d'études, je travaillais déjà temps plein 4 à 5 soirs semaine en plus d'école, plus tout le reste qu'on je présume on va faire un, on va revenir après sur l'autre aspect, mais fait que quand j'ai fini mon secondaire, moi, dans ma tête, j'avais déjà une job. J'étais plutôt très bien payé. Puis, je voulais m'en aller dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Fait que pour ma part, je voyais pas l'intérêt d'aller à l'école pour apprendre un domaine que j'étais déjà dedans.
C'était comme déjà réglé. Là. Ouais. Tu l'avais avant de quitter le secondaire.
C'est ça.
Et ça pouvait continuer comme ça.
Absolument.
Et c'était ton premier emploi, ça?
Ouais.
Oui.
Ouais. Okay. Officiel, tu fais des petits jobs ici et là... garder des choux, des affaires. Oui, oui, ouais, okay. Mais le premier vrai emploi, oui. Ouais,
OK,
ouais,
OK.
Ouais, ouais, ouais.
D'accord.
Puis, en même temps, en parallèle, tu sais, j'étais aussi à ce moment-là, depuis quand même quelques années, je faisais déjà du goalball. Puis là, à ce moment-là, j'étais rendu au niveau élite. Fait que dans ma tête, j'étais serveur, je gagnais ma vie avec ça. J'avais des... je venais d'aller au Mondial. Dans ma tête, j'étais rendu à une autre étape. Je me suis dit, ben, je vais continuer. À un moment donné, je vais continuer à m'améliorer. Puis, ben, je vais finir par être représentant national senior. Bon, donc, qui fait que je vais quand même avoir le carding puis ces choses-là. Donc, tu sais, dans ma tête, là,
Mais tu vas vite un peu, là. Moi, j'aimerais ça que tu expliques comment ça t'est venu, premièrement, l'idée de jouer, puis comme...
Le goalball?
Ouais. Puis comment ça progresse, tout ça, là?
Parce ouais, que, là, le goalball, bon, on va revenir un peu en arrière, c'était...
Parce que je te demande ça, surtout, parce que, bon, toi, t'avais fait du sport avant,
ouais.
Là.
Ouais.
Là, à Jacques Ouellet, bon, il y a des cours d'éducation physique, il y a une piscine, tout ça.
Ouais.
Mais après ça, là, si on veut élargir un peu, là, puis au-delà de l'école, il faut faire des démarches par soi-même. Là.
Ouais, c'est ça. Ben, écoutez, le goalball, ça remonte à vraiment longtemps. Là, les dates, là, je m'y perds, mais on va parler de début secondaire.
Bon, donc, OK.
Dans ces eaux-là, où j'avais été à un camp de l'INCA. Cafnet, si je ne me trompe pas que ça s'appelle. C'était une semaine, peut-être deux semaines, je ne m'en rappelle pas, mais dans le cadre de cette semaine ou deux semaines-là, on faisait diverses activités. Principalement, c'était de l'informatique. Si je me rappelle bien, on fallait monter un blog ou quelque chose du genre. Dans les bureaux, puis on était logés des résidences d'une université quelconque. Puis on allait le jour dans les locaux de l'INCA. Puis au travers de tout ça, on est allé faire du judo. C'est vrai, j'ai fait du judo aussi très longtemps, petit jeune. Ça vient de me rappeler les souvenirs.
Ben ça, j'ai moins de misère à t'imaginer que...
Ouais, le judo, ouais.
Ouais.
Non, c'est parce que ça, c'est parce que le professeur qui était là, qui faisait la démonstration du judo, il m'avait reconnu parce qu'on allait à la même école. Puis ça faisait quand même un an à ce moment-là que j'avais arrêté d'en faire. Je devais avoir 15 ans. Okay. Parce que ouais, je devais avoir dans ces eaux-là parce que je me rappelle que j'ai arrêté le judo quand mon père est décédé. Fait que si je dis que ça faisait peut-être un an,
ouais.
Ouais, ça arrête l'allure. Ça, hein? Ouais. Je pense que ça arrête l'allure. Ouais. Ou si c'était quand j'avais 14 ans, c'était dans la même été peut-être. En tout cas... Anyway, c'est pas tant important, mais c'est ça, c'était drôle parce qu'il m'avait vu puis il disait pourquoi t'as arrêté puis tout ça, puis bon, évidemment, on a eu bien du fun, c'était cool. Puis au travers de ça, on avait fait du tandem, je me rappelle bien, des affaires de même, et entre autres du goalball. Puis la démonstration, c'était avec Bruno Haché, qui était membre de l'équipe du Québec. Je sais pas s'il était membre déjà de l'équipe nationale ou il était réserviste à cette époque-là. Puis tu avais Viviane Forêt qui était elle, membre de l'équipe du Québec et du national côté féminin. Puis on avait tout fait une initiation, puis j'avais aimé ça. Ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé si ça me tentait. Nathalie Chartrand m'avait appelé à un moment donné pour me parler de ça. Puis c'était dans le coin de 2004. Ouais, c'était dans l'année où que mon père est décédé. Fait que Cafnet, ça a dû avoir lieu pendant l'été. Ben, je me rappelle, j'étais encore au secondaire régulier à ce moment-là.
OK.
Ouais. Puis j'ai commencé comme ça, tout simplement, au fur et à mesure. Je veux dire, c'était... ça, c'était spécial aussi. T'as un petit kid de 14 ans qui joint à des adultes de 20 ans et plus et 30, 40 ans. Disons que c'est assez spécial. On avait commencé avec Brandon Gaulin en même temps. En même temps, nous autres, on a eu Brandon, il y avait une petite ligue au MAB, fait qu'on jouait, j'allais avec lui des fois jouer avec sa gang. Puis c'est ça, au fur et à mesure, j'ai commencé, je me suis mis en forme parce que à ce moment-là, je n'étais pas très en forme, je n'étais plus en forme du tout. J'étais en forme de poids, mais c'était à peu près la seule chose de forme que j'étais.
Ouais.
Mais j'étais flexible, hein, je tiens okay. à le préciser.
OK.
J'étais flexible, pas artistique quand même.
Oui. Mais... ça reste. Hein?
Ça reste. Bon. T'es capable de me pencher. Puis. Non, mais. Ouais, c'est ça. Non, mais puis. Au fur et à mesure, j'ai beaucoup aimé ça. Le goalball, là, ça a été. C'est un beau sport. C'est dur physiquement. Ça demande du cardio, de l'endurance, une quand même une flexibilité puis une bonne force physique au niveau. Là, je parle vraiment de masse musculaire. C'est un sport qui est quand même assez complet. Puis. C'est rough. C'est très rough. Tu sais, t'as reçu des balles, faut que tu te couches en pleine. Il y a un côté de compétition là, qui était. Qui m'a allumé, mais complètement. Ça a l'air que j'avais quand même un certain talent.
Ben, parce que c'est ça que j'allais dire, là. C'était une démonstration qui a été faite pour les participants ouais, du camp.
C'est ça.
Puis toi, ils t'ont rappelé. Ils n'ont pas dû rappeler tout le monde, j'imagine.
J'imagine que non. Si oui, je m'en... tant mieux pour eux, je m'en rappelle pas. Ça fait trop longtemps d'ici là.
De toute façon, l'important, c'est que pour toi, ça a eu une importance. Ça a eu
majeure.
Une révélation.
Ouais, ouais, mm-hmm. majeur. J'ai appris beaucoup de choses. Ça, là, puis... d'un, ça m'a mis en santé, ça m'a donné un but, hein, ça m'a tenu en forme. Puis ça... Autant j'ai de très mauvais souvenirs, ça ne mérite pas la peine de trop s'étaler là-dessus, que autant les bons souvenirs... Les compétitions, les entraînements, les gens de qualité que j'ai croisés, les valeurs inculquées dans la discipline. Tu sais, de se mettre en discipline, parce que c'est pas juste être sur place, mais
oui.
c'est la discipline mentale.
Parce que là, quand tu parles d'entraînement, puis de compétition, puis tout ça, là, ça me demande une discipline.
Ouais, ouais.
Tu peux pas te présenter jusqu'en septembre, puis faire le...
Non, ben, puis tu viens de résumer pourquoi en 2009 j'ai arrêté. Là, l'esprit était plus là, mais pendant toutes ces années-là, puis je me rappelle à Jacques Ouellette, après ça, sur les heures de dîner, parce qu'à un moment donné, j'ai fait l'équipe. Je faisais l'équipe du Québec, mais j'étais plus réserviste que d'autres choses. Mais sur le junior, j'étais partant à la fois de notre équipe du Québec, puis quand l'équipe nationale était formée, j'ai été sur le top 3 tout le tournoi. Top 3 pour ceux qui parce que le goalball, ça joue 3 contre 3. Donc, dans l'équipe, t'es constitué de 6 joueurs. T'as ton alignement de partant qui était 3. T'as les 3 secondes, la deuxième ligne qui vont être sûrement des réservistes. Mais c'est un peu péjoratif de dire ça parce qu'ils ont quand même une importance plus que majeure parce que, je veux dire, à un certain niveau aussi, ils font rien que s'alterner parce que les compétitions sont tellement dures que... donne un break aussi dans des grosses parties.
C'est sûr qu'ils vont avoir de quoi faire.
Ah oui, majeur. Mais bref, toutes ces expériences-là, ça a apporté quand même quelque chose d'incroyable. Puis je dirais aussi, c'est le côté un peu... parallèle qui est moins intéressant, les blessures, ces choses-là.
Ben oui, parce que là... Ça arrive, là.
Et oui, ça arrive, puis c'est... mais il y a quelque chose, par contre, qui est fascinant, c'est de... un moment donné, quand t'es tellement dédié à ça, puis que tu te blesses, le fait de serrer les dents, puis de dire non, un moment donné, c'est que tu dépasses aussi ta... C'est même plus une question de confiance, c'est une question d'honneur. Puis, tu sais, je me rappelle quand on était au Mondial, je me suis fracturé la grosse orteille en juin. Et j'ai serré les dents, puis j'ai fini le tournoi, puis il n'y a rien à faire. Oui, t'es fracturé, qu'est-ce que je te dis. Mais t'apprends aussi à t'endurcir. Puis il y a une camaraderie incroyable qui se fait où ce que tu dis, si moi je choke, tout le reste va choker aussi. On est une équipe.
On pense en équipe, là. C'est ça. On pense pas individuellement.
Exactement. Non, personnellement, ça m'a vraiment apporté énormément de choses dans ma vie. Ça fait aussi la partie de la personne que je suis. Moi, en étant quand même quelqu'un qui se dit quand même assez paresseux et efficace, parce que dans ma paresse, je l'ai transformé en efficacité parce que au lieu de faire 4 voyages, je vais préférer en faire 2. donne un exemple basique de même. Là.
Mais c'est rare quand même quelqu'un qui se proclame paresseux.
Bah, c'est parce que si j'ai le choix de dormir une heure de plus, je vais le faire. Tu sais, j'aime bien ça, dire le soir quand j'arrive, je m'efforce, j'écoute du Netflix au lieu de je sais pas, d'aller faire n'importe quoi d'autre. Mais, tu sais, c'est un paresseux sélectif. Pas un paresseux au travail, dans n'importe quoi. Oh. C'est juste que j'ai une tendance à...
Oui, mais on pourrait dire que tu as une tendance à prendre du temps pour toi. Tu sais,
On peut dire ça comme ça. Ça le fait. Absolument.
Et puis en plus, Mathieu, c'est que le temps file énormément vite. Là. On est déjà presque rendu à 50 minutes d'entrevue.
C'est pour ça que mon café commence à être tiède. Je comprends, là.
Mais tu sais, tu disais, bon, en 2009, il y avait moins de passion.
Ouais.
T'as changé un peu de branche, là, j'imagine. Puis tu disais, bon, t'as fréquenté des gens plus âgés que toi.
Ouais.
Et ça sert aussi parce que là, c'est comme le préambule que je fais pour la deuxième partie de l'entrevue. Tu t'es impliqué dans d'autres associations.
Ouais.
Puis dans les associations, on ne se le cachera pas, il n'y a pas tant de jeunes que ça. C'est souvent des personnes plus âgées que nous. Donc, ça peut amener, j'imagine, un positif. Puis les jeunes, comme ils sont habituellement bienvenus dans ces associations-là, j'imagine que ça aide à vouloir s'impliquer.
Oui. Je ne l'avais pas fait pour ça à l'époque.
Non.
Mais c'est sûr que c'est sûr que c'est un objet. Ça fait partie de la chose. Mais pour ma part, je pense pas que c'était tant ça. C'était complètement autre chose. Je pense que c'était juste le fait de vouloir m'impliquer et faire quelque chose de différent. Puis un peu faire la continuation d'un peu dans le milieu que j'étais avec mes idées puis sur certaines choses. Mais parce que ça fait longtemps que je m'implique dans le milieu, mais je fais pas tant d'activités que ça dans le milieu. Ironiquement parlant, là.
OK.
C'est ça. J'ai toujours. J'en ai fait, là. Je sais pas que j'en fais pas.
Mais regarde, si tu veux, là, regarde, on va faire la pause, puis après la pause, tu nous diras un peu c'était quoi tes buts, puis qu'est-ce que t'as fait, puis tes implications, autrement dit, des fois, ça peut être plus comme en arrière. Là. C'est pas nécessairement d'aller participer aux activités, mais c'est de faire des conseils d'administration, des choses comme ça. En tout cas, de ce que j'en sais. Puis tu pourras.
J'en ai fait quelques-uns.
Oui.
J'en ai fait quelques-uns depuis le temps.
Donc, on va faire la pause immédiatement, puis on revient après, avec toutes les implications de Mathieu, puis ses projets futurs aussi, j'imagine.
Il y en a.
Ben, tant mieux. Donc, notre invité qui est Mathieu Rochette, tout de suite après la pause, on poursuit.
À notre prochaine émission. Nous vous offrons un cadeau du temps des fêtes. Une invitée revient à notre micro pour nous parler de sa carrière de chanteuse et d'animatrice de radio. En deuxième partie d'entrevue, nous discuterons de souvenirs de Noël. Katia Darèche, à notre rendez-vous du 21 décembre.
Nous sommes de retour avec notre invité qui est Mathieu Rochette aujourd'hui. Et là, on passe à la section où, Mathieu, tu vas nous dire un peu qu'est-ce qui t'a incité à t'impliquer dans plusieurs associations pour personnes handicapées visuelles. Et bon, ça date d'un certain temps et ça se poursuit encore aujourd'hui. Là. C'est pas
terminé. Ouais, non, c'est loin d'être terminé, ouais.
OK. Donc, tu dirais, ça a commencé où?
Première implication que j'ai faite, c'était au conseil étudiant JO.
OK.
On a fait un gros débat pour être capable d'aller pouvoir se pogner du café. C'est un gros dossier chaud.
Oui, mais le café, c'est important.
Écoute, il y avait une machine à café, mais elle était seulement dans la salle des profs. Puis nous autres, on voulait convaincre la direction qu'on était responsable de pouvoir aller prendre du café, le mettre dans des mugs fermés, puis qu'il n'y allait pas de danger. En tout cas. Fait que on a gagné notre point pour que l'année d'après, finalement, ça a passé par de. Ça, c'est ça. Ça n'a pas marché. Mais.
Ça n'a pas marché.
Non, ils ont finalement décidé que.
Pas de café,
c'est ça. Trop compliqué. Mais après ça, j'ai commencé à m'impliquer avec la SAM. J'avais été. J'avais été là, pour franchement, là, c'est dur à dire. Je me rappelle pas précisément pourquoi, mais je sais que j'ai été avec la Sam pendant un bout de temps où on avait décidé de... J'avais décidé de... que j'avais des projets que je voulais monter. Il y avait du Hockey Cosum qu'on avait monté à l'époque. J'avais le goût de m'impliquer. J'avais le goût de faire de quoi de différent. À ce moment-là, dans le fond, je continuais à travailler. Puis, c'était pas le temps de se trouver une occupation. C'était plus j'avais le temps, j'avais le goût. Puis bon, c'est ça. J'ai commencé là. En même temps, en parallèle, je crois que je m'amusais dans d'autres associations. J'allais jouer au poker avec Lars. J'avais été au Cercle Ville-Marie aussi. Une couple d'affaires ici et là. J'ai arrêté par la suite parce que j'avais des implications professionnelles qui m'avaient amené à autre chose. Puis, j'ai quand même continué un peu de loin dans d'autres choses qui j'avais pas de rôle précis, mais qui étaient, on va dire, il faut donner un terme, conseiller, tiens. Okay. Dans diverses personnes que je connaissais au niveau des associations qui me posaient des questions, ces choses-là. Donc, j'avais quitté un peu, mais j'avais resté quand même proche. Puis, je me suis beaucoup impliqué par la suite pour les échecs. Ça a été quand même pour la GEV.
C'est ça, parce que t'es joueur d'échecs?
Ouais, j'ai toujours aimé ça, jouer aux échecs. J'ai fait quelques tournois. J'ai fait les tournois qu'on a dans notre... communauté,
dans le milieu.
J'ai fait des tournois dans la FQE, la Fédération des échecs du Québec, avec parmi tous les voyants, finalement, la grosse fédération québécoise. Puis les échecs, c'est ça, je me suis beaucoup impliqué à la GEV. J'ai été là pendant plusieurs années, sur le CA, sur divers comités du tournoi organisateur du tournoi Jean-Marie Lebel qui a lieu à toutes les premières fins de semaine de novembre. Et ça s'est continué, ça continue encore d'ailleurs à ce moment-ci, là, c'est encore viable. Puis c'est ça, je me suis impliqué aussi avec Lars, pas exactement pour les mêmes raisons. Lars, c'est qu'à un moment donné, il y avait une situation critique, puis je trouvais ça triste qu'une association, que ça fait autant d'années qu'il existe, qui sont sur le bord finalement de fermer les portes parce qu'il y a un manque d'implication. Ce que j'ai toujours, ce que je me rends compte avec le temps, c'est que j'aime pas tant participer aux activités dans le milieu. Puis c'est pas parce que j'aime pas les gens du milieu, c'est vraiment pas ça, au contraire. C'est que comme j'ai quand même beaucoup d'occupations, ce que je me suis rendu compte le plus, c'est que j'aime mieux partir des activités, m'impliquer dans soit les collègues de fonds dans diverses pour permettre aux gens d'y participer en me disant précisément, moi je suis jeune, moi j'ai beaucoup d'amis voyants, je manque pas de relations pour sortir ou faire quoi que ce soit, mais c'est pas le cas de tout le monde, puis qui sait que dans une vingtaine, trentaine d'années, quand moi je vais éventuellement être à retraite, que ça, j'aimerais ça que ça existe encore, ces associations-là, qui permet à pouvoir faire des activités. Que peut-être à ce moment-là...
Tu vas avoir plus de temps pour y participer.
Oui, exact.
Puis on va aussi pas se compter d'histoire, là, quand on parle de levée de fonds, puis de... Tu sais, même organiser une activité nouvelle, c'est pas tout le monde là, que ça intéresse d'organiser ça. Non. Là.
Moi, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de grand ou petit rôle. Tout le monde doit jouer un peu le rôle qui sent à l'aise. Puis, à un moment donné, je me rappelle, j'avais animé une assemblée générale parce que j'étais le président d'une des associations. Puis, je me rappelle, j'avais dit, c'était sincère et ça l'est toujours, la plus grande implication qu'un membre peut faire vis-à-vis son CA, c'est de participer aux activités. Et ça, c'est une énorme responsabilité, puis une énorme... motivation, c'est la raison. Un membre, une association existe parce qu'il y a des membres, puis il y en a qui vont organiser des choses au CA, puis il y en a d'autres qui vont y participer, puis ça va de soi, c'est un tout. Si tu as un CA, puis tu sais, extraordinaire, qui vont faire des choses, qui vont proposer, qui vont mettre en branle des projets, que ce soit d'activités, de levée de fonds, de campagne, de publicité, d'information sur le grand public, peu importe, s'il n'y a pas de membres qui participent, il n'y a aucune raison que
c'est
du monde...
C'est inutile.
C'est inutile. Fait que, tu sais, tout le monde a un peu son, tout le monde a son rôle à jouer. Et, bon, moi, ça donne que j'ai plus de plaisir à faire des CA pour organiser des trucs, puis faire mes petites affaires ici, à droite et à gauche, puis mettre des projets sur pied. Puis, la plus grande satisfaction, une des plus grandes satisfactions que j'ai, c'est que certains projets que j'ai initiés avec l'aide de gens extraordinaires, parce que ça aussi, faut se le dire, là, j'encourage beaucoup de gens. En fait, j'encourage tout le monde à aller s'impliquer dans des associations à but non lucratif ou lucratif, peu importe, à des groupes de communautés. Les gens que tu rencontres, là, c'est fascinant. Puis, les connaissances que tu acquiers aussi, il y a tellement de choses que j'ai appris au travers du milieu associatif. C'est formateur aussi, vraiment, vraiment, c'est incroyable. Si je m'enligne avec ça.
Parce que ce que ça t'apporte, là, dans le fond.
Ouais, c'est ça.
Les gens participent aux activités que les gens qui s'impliquent sur les CA organisent et puis qui apportent des idées de temps en temps.
C'est
aussi.
Ça. Ah oui, c'est ça, je voulais dire tantôt. Une de mes grandes satisfactions, c'est quand il y a un projet qui est mis sur la table, qui part, qui fonctionne, puis que je me rends compte que moi, je ne suis plus du tout impliqué dans ce projet-là et qui continue.
Que ça se poursuit.
Et ça, c'est génial, parce que c'est ce qui est le plus décevant quand tu travailles, que tu montes des projets. D'un, c'est que ça ne marche pas pour X, Y raison. Parce qu'on va aussi se le dire, c'est pas parce que t'as mis des centaines d'heures que ça va marcher nécessairement.
Ah, ça fonctionne pas toujours.
Ouais, calvasse, non. Mais ce qui est vraiment le plus satisfaisant, une des choses que je trouve le plus satisfaisante, c'est que quand tu mets quelque chose sur pied, et que tu te rends compte que ça continue et que t'es même plus là, je trouve que c'est un projet ça veut dire que ça a allumé assez de gens que il continue, et c'est ça qui est le plus... on le voit dans un paquet d'autres choses dont tu fais, là, depuis très longtemps, que ce soit dans la vie communautaire, que ce soit dans la vie handicapée, peu importe le terme qu'on veut utiliser, ou dans la vie courante, dans n'importe quoi, c'est le fun de se rendre compte que des projets qui sont mis sur pied, qui continuent pendant des années, et que c'est même plus les membres, pour demeurer un terme encore une fois, fondateurs qui l'ont fait. Ça veut dire que c'est un beau projet qui a été fait pour les bonnes raisons. Puis
ça a nécessité assez d'intérêt là, pour que ça, ouais. Ça perdure.
Ouais, ouais.
Mais toi, Mathieu, ce qui est le fun aussi, parce que bon, c'est beau les implications dans le milieu, mais c'est du bénévolat.
Ouais.
Mais toi, tu travailles. Et ouais. Tu travailles, disons, deux fois plutôt qu'une. Oui,
ouais, j'ai deux jobs.
Est-ce que tu veux aussi nous parler rapidement peut-être de tes deux travails?
Oui, ben actuellement, je travaille pour un studio de massothérapie qui s'appelle Hands That See, Mains Qui Voient, qui est dans l'ouest de la ville. Là-bas, dans le fond, mon titre officiel, c'est réceptionniste. Mais je fais beaucoup de secrétariat, un petit peu de comptabilité, mais c'est surtout de la gestion d'horaire d'employés avec.
OK, t'es pas massothérapeute.
Pas encore, non. Ça va. Ça s'en vient. En janvier, je rentre à l'école pour faire mon premier diplôme là-dedans.
Ah, c'est que les grosses mains costaudes vont servir.
Ça, exactement. Ils vont servir. Puis.
Là, je sens que je t'ai déstabilisé.
Non, c'est parce que je me dis jusqu'à quel point je peux sortir quelque chose ou pas. On a-tu mis le 18 ans et plus finalement au début?
Non, ou... non on l'a pas
on
mis.
On l'a pas mis, bon, on va se garder une petite gêne. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que ça, j'occupe des fonctions. Dans le fond, je suis un peu l'homme à tout faire là-bas. Je touche à énormément de choses. Puis ça, c'était belle. C'est une magnifique expérience, vraiment. Là, j'adore ça. Puis l'autre, bon, je travaille aussi, je suis retourné travailler comme serveur à Aulnois, parce que j'avais arrêté ça dans le coin de 2011-2012, puis j'ai recommencé en novembre passé à temps partiel pour arrondir les fins de mois, puis ouais, c'est
Et là, t'es serveur?
Ouais, je suis retourné travailler comme serveur. Ouais,
OK,
ouais.
D'accord.
Ouais.
Et là, Mathieu, on va finir bientôt l'entrevue, mais une petite question, là. Tu disais, bon, au secondaire, te faire des amis, c'était pas un problème. T'as fait des petites copines? Comment ça se passe?
Ouais, ben, ça c'est. En tout cas, du moins au secondaire, pas eu trop de problèmes. Ça s'est bien passé. J'ai été longtemps avec une copine. au moins deux ans et demi, facile. Plus les années qu'on s'est cruisé.
Le temps de la... comment on pourrait dire
les,
ça? Là?
Les préliminaires...
Ont été longs.
Ont été longs, ouais. Non, ça s'est bien passé. Je dirais que c'est sûr qu'en vieillissant, c'est... Même si je suis pas vieux, c'est pas pareil. Parce qu'avant, tu rencontres des gens au secondaire, tu sais, c'est un petit... dans des activités, dans des choses comme ça. Là, maintenant, j'en rencontre énormément de gens, mais c'est dans le public. C'est comme, tu sais, il y a une relation professionnelle, mais je dirais qu'au secondaire, j'ai pas eu de misère. J'ai pas été là, le genre où que ça s'enchaîne. Là. J'ai jamais été à ce point-là attractif. Ça n'a jamais été non plus vraiment quelque chose qui m'allume. Je suis quand même assez... Je trouve que la fidélité est quelque chose d'important, puis les amourettes d'un soir, j'en ai fait, mais pas...
C'est pas ta priorité, là.
C'est pas mon gros credo, non. Okay. Mais, non, ça s'est bien passé, ça a été... c'était cool. Tu sais, je veux dire, ça... Tu vois, du moins, cette relation-là qui a été quand même très, très longue, j'ai eu beaucoup de fun, j'ai été bien accueilli dans la famille, tout ça. Tu sais, le fait d'avoir un... Je cacherai pas non plus d'avoir un partenaire qui a un handicap, peu importe laquelle, c'est sûr que c'est pas...
Ça amène beaucoup, quand même, de questions, puis ouais. De...
Ouais. Mm-hmm. Mais non, ça s'est vraiment bien passé. Je pense que comme tout le monde, hein, je pense que c'est juste plus dur en vieillissant parce que les fréquentations, les cercles sont pas les mêmes. Tu sais, à 18-19 ans, on traîne dans les bars 20 ans.
OK, parce que toi, tu fais ça, les bars.
Ouais. Ouais.
Et là, t'as
dans
donné...
ma vie de rockstar.
Et là, tu as donné quelques indices. Mais tu es né en 1990.
Ouais.
Je pense qu'on peut le préciser.
Ouais. Mon signe chinois est cheval.
Uh-huh. Uh-huh. Et tu es célibataire en ce moment.
Ouais. Ouais.
Et tu n'es pas très réseaux sociaux. Non. S'il y a des petites madames qui sont allumées par ta voix, là, ils vont pas te trouver sur Facebook.
Non, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de Twitter, j'ai pas d'Instagram. Je suis assez plate. Mais c'est pas j'aime ça garder le mystère. Hein. Ça doit être ça. Non, j'ai pas très réseautage là-dessus. Pas ma grande force, puis surtout aucun intérêt.
Pas d'intérêt, non.
Ah, zéro. Mais je travaille comme serveur, je travaille au...
Ouais, ben là, on t'a donné quand même quelques indices.
Je donne deux pistes, là.
Ouais, c'est ça, si jamais il y en a qui te...
Ouais, les mardis, mercredis, vendredis, samedi, puis la fin de semaine du vendredi au dimanche au resto.
Quelle bonne occasion d'aller essayer le resto, puis d'aller essayer le studio de massothérapie.
Exactement, exactement.
Écoute, Mathieu, ça a passé extrêmement vite.
Trop vite.
Puis comme je le dis souvent... Mais ça s'est encore jamais fait, mais ça va se faire un jour, je le sens. On pourra faire une deuxième heure à un moment donné, certainement.
Oui, ça va être le fun.
Puis d'ici là, ben, y aura eu d'autres choses, j'en suis sûr, étant donné que tu es très actif et très impliqué. Mais en attendant, Mathieu, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire l'entrevue aujourd'hui. C'est, comme je l'ai dit, ça a passé très vite et ça a été aussi très intéressant. Et ce que j'espère, c'est que ça a été intéressant, mais j'en suis sûr, que ça a été intéressant aussi pour les personnes qui écoutent l'entrevue.
Ben, j'espère.
Puis j'espère que vous allez en parler, la partager, l'entrevue, parce que nous, oui, on est sur les réseaux sociaux.
Non, mais ça va un peu de soi, là, ça ferait dur sinon.
Et donc, je vous incite à continuer à nous écrire, à communiquer avec nous, nous faire part de vos suggestions, de vos commentaires. Mathieu, je te remercie encore une fois.
Ça a vraiment fait plaisir, c'était bien fun.
Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous.
Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com/. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.